c'est l'heure du journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. À la veille du sommet sur le climat, One Planet Summit, des ONG pointent la responsabilité du secteur bancaire et de la Caisse des dépôts dans le soutien à l'industrie fossile. Nous irons aussi au Vietnam pour constater les effets du réchauffement climatique dans la vallée du Mékong. Attentat terroriste à New York, 3 personnes ont été blessées, un suspect a été arrêté. Il a lui-même été blessé dans l'explosion d'une bombe artisanale. Après le choc des images de marchés aux esclaves en Libye, l'ONU cherche des places d'accueil pour 1300 réfugiés vulnérables bloqués dans le pays. Le dialogue entre Paris et les nationalistes corses va s'engager. Édouard Philippe recevra Gilles Simeoni dès l'installation de la nouvelle collectivité. La liste PEA Corsica a rallié hier 56,46% des suffrages. Il y a 2 ans, l'accord de Paris, premier accord universel sur le climat, fixait des objectifs pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais les engagements pris par les États ne permettront pas à eux seuls de les atteindre. Un nouveau sommet international est organisé demain sur l'île Séguin, à côté de Paris, avec pour objectif de consolider le financement de la lutte contre le réchauffement. En amont de ce One Planet Summit, Bercy et la place financière de Paris organisaient aujourd'hui le Climate Finance Day, où des représentants de l'industrie financière faisaient part de leurs propres engagements en faveur du climat. Bonsoir Anne-Laure Chouin.
Bonsoir Aurélie.
Parallèlement, l'ONG Les Amis de la Terre, les altermondialistes d'attaque et les écologistes de 350.org ont publié un rapport très critique sur les banques françaises, accusées d'avoir une part de responsabilité dans l'aggravation de la crise climatique. Même la Caisse des dépôts est ciblée alors que c'est l'État qui est aux manettes dans
oui,
ce cas-là.
Oui, tout à fait. La Caisse des dépôts et des consignations, la CDC, c'est le bras armé de l'État en termes d'investissement. Notamment, c'est elle qui gère l'épargne française des livrets A et livrets développement durable. Elle gère aussi un fonds de retraite, la BPI, la Banque française d'investissement, la Poste, le CNP Assurance. Bref, un empire financier, pourrait-on dire, mais au service de l'État. On pourrait donc imaginer que ce même État qui se veut à la pointe de la finance verte mondiale soit à peu près irréprochable en termes d'investissement. Eh bien non, révèle ce rapport. On y apprend, entre autres enseignements, que les investissements de la CDC sont très peu transparents et puis que ces investissements sont parfois directement mis au service d'entreprises du secteur de l'énergie fossile via Engie, dont la Caisse des dépôts est actionnaire, via l'opérateur gazier GRT Gaz et via de nombreuses autres firmes pétrolières ou charbonnières. Clémence Dubois, chargée de campagne pour 350.org.
Le livret A et le livret de développement durable est lié en fait au fonds d'épargne qui investit lui-même dans des firmes impliquées dans le charbon, par exemple jusqu'à un quart de leur chiffre d'affaires. Et le fonds d'épargne de la Caisse des dépôts est un actionnaire direct de Vallourec, par exemple, qui est une firme parapétrolière à hauteur de 34 millions d'euros.
Et des exemples concrets comme cela, il y en a beaucoup dans ce rapport. Alors, difficile de demander au secteur financier de se responsabiliser si l'État lui-même en est incapable. Clémence Dubois.
Le secteur financier ne prend que des mesures qui sont cosmétiques et ne s'adapte pas de lui-même. Et c'est pour ça que l'État doit réellement s'engager et reprendre un peu les rênes de la gouvernance financière, notamment en fixant des critères d'exclusion. L'État ne doit pas financer le problème, l'industrie fossile, mais doit financer la solution, les énergies renouvelables et tout secteur qui contribuerait à la transition énergétique.
Et la Caisse des dépôts contactée est restée injoignable jusqu'à maintenant.
Anne-Laure Chouin, merci. Illustration du changement climatique à l'œuvre. Le delta du Mékong dans le sud du Vietnam, 19 millions d'habitants y vivent. Et la montée du niveau de la mer les contraint à changer de modèle économique. Les agriculteurs ont dû passer de la culture du riz à l'élevage de crevettes. Écoutez le reportage de Dominique André dans le delta du Mékong.
Le delta du Mékong à l'extrême sud du Vietnam est le bol de riz des Vietnamiens. L'essentiel de la production provient de cette région agricole qui nourrit en riz le Vietnam et une quarantaine de pays. Chaque année, plus de 25 millions de tonnes sont produites. Monsieur Tho dirige une coopérative d'une cinquantaine d'agriculteurs dans le delta. Autrefois, il ne vivait que du riz. Mais peu à peu, il s'est mis à la crevette. Sur les 90 hectares, il n'y a plus que 20% de riz. Tout le reste, c'est de l'élevage de crevettes.
Không có nước mặn.
Avant 2002, tous les champs qui sont autour de nous étaient des rizières. Après 2002, à cause du changement climatique et de la montée du niveau de la mer, l'eau est devenue salée. Au moment de la récolte, on a constaté que la qualité des grains de riz s'était dégradée, le riz était moins bon. Ça nous a posé des problèmes. Pour cette raison, on a décidé d'arrêter de planter du riz les saisons suivantes et on a changé pour faire de l'élevage de crevettes.
À Ho Chi Minh-ville, l'ancienne Saigon, Madame Lan est l'une des responsables de la VASEP, l'association des producteurs et exportateurs de produits de la mer du Vietnam.
Le changement climatique, c'est le principal défi auquel doit répondre l'industrie de la pêche du Vietnam. Il y a 5 ans, quand on parlait des conséquences du changement climatique, personne ne voulait le croire, mais là on peut constater que c'est arrivé beaucoup plus vite que prévu. Vous pouvez constater que le niveau de sel dans l'eau est en augmentation et que l'eau douce manque, donc nous devons mettre en place sérieusement une stratégie pour s'adapter à ce changement climatique.
Le Vietnam a d'abord construit des digues pour bloquer l'eau de mer, mais ça ne sert à rien. Le gouvernement a décidé d'utiliser l'eau salée plutôt que de lutter contre, un concept officialisé en septembre de cette année. La société Minh Phu, numéro 1 de la crevette au Vietnam, s'est engagée dans un programme qui allie la protection du delta au développement d'élevage de crevettes. Le patron, Le Van Quang, emploie 14 000 personnes.
Ước mơ của Minh Phu thì là muốn làm sao mà dọc bờ biển Việt Nam có một dải rừng nước.
Le rêve de Minh Phu, c'est qu'au bord de la mer, il y ait une barrière de mangroves sur plus d'un kilomètre de profondeur, ce qui permettrait de protéger le delta et de nourrir les crevettes qui vivent naturellement dans la mangrove. Ça donnerait des produits de qualité pour les consommateurs. La forêt de mangrove, c'est une réponse à la menace de l'eau salée et du changement climatique, et c'est un excellent environnement pour les crevettes qui aiment vivre dans la mangrove.
Des élevages de crevettes poussent partout dans le delta tandis que la production de riz diminue. La stratégie du gouvernement vietnamien est aussi inventive que radicale face au changement climatique. Mais quel est le choix ? L'eau salée pénètre inexorablement dans le delta du Mékong, déjà sur plus de 60 km. Plutôt que de mourir de faim, les paysans du delta préfèrent élever des crevettes.
Dominique André, une explosion a fait 3 blessés aujourd'hui à New York. Il s'agit, explique le maire Bill de Blasio, d'une tentative d'attaque terroriste. Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect avait apparemment agi seul. La correspondance de Grégory Phillips.
Le suspect, un homme de 27 ans, portait sur lui un engin rudimentaire, une bombe artisanale qui apparemment a explosé de manière prématurée. L'homme a été interpellé quasi immédiatement. 3 autres personnes ont été légèrement blessées, selon plusieurs médias américains. Mais cela, les autorités ne le confirment pas pour l'instant. L'homme vivait dans le quartier de Brooklyn. Il est originaire du Bangladesh. L'engin qu'il portait sur lui a donc explosé de manière prématurée. Les témoins ont entendu une forte explosion dans ce couloir du métro entre la 42e rue et la 8e avenue. C'était peu avant 8h, l'heure de pointe dans ce quartier au cœur de Manhattan avec Times Square juste à côté et le terminal des bus. Immédiatement, les autorités ont demandé aux New-Yorkais d'éviter le quartier. 3 lignes de métro ont été évacuées. Le maire de New York, lors d'une conférence de presse, a parlé d'une tentative d'attaque terroriste. Le gouverneur a évoqué un acte isolé. Selon la police, le suspect aurait évoqué le groupe État islamique lors de ses premières déclarations. Mais les autorités new-yorkaises, pour l'instant, refusent sur ce point de donner plus de précisions.
Grégory Phillips, notre envoyé spécial permanent aux États-Unis. Mort à l'Amérique, Jérusalem est à nous, criaient aujourd'hui encore les manifestants. Ils étaient plusieurs milliers de partisans du Hezbollah libanais dans les rues de Beyrouth. Au même moment, des rassemblements étaient organisés en Iran, à Jérusalem et dans les territoires palestiniens. Pourtant, aux yeux du Premier ministre israélien, la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël rend la paix possible. C'est en tout cas ce que Benjamin Netanyahou a affirmé à Bruxelles, où il était venu rencontrer les chefs de la diplomatie des 28 pays de l'Union européenne. Alors quel était le climat de cette rencontre, Pierre Benazet ?
Bien Aurélie, Benjamin Netanyahou n'a pas reçu de la part des Européens un accueil enthousiaste, même si le Premier ministre israélien se flatte de l'espoir de voir l'UE emboîter le pas aux États-Unis et déménager un jour elle aussi ses ambassades vers Jérusalem. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a répété la position européenne qu'elle décrit comme consolidée, c'est-à-dire comme faisant l'objet d'un consensus inamovible. C'est d'ailleurs le discours de fond des Européens depuis des années, à savoir le fait qu'une solution à 2 États est la seule solution viable, qu'il ne peut y avoir de reconnaissance de Jérusalem comme capitale uniquement d'Israël. Même si la Hongrie avait opposé son veto la semaine dernière à une condamnation formelle de l'UE de la décision de Donald Trump, le seul en Europe à préconiser la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël est le président tchèque Miloš Zeman, qui n'a même pas le soutien de son gouvernement sur ce point. Benjamin Netanyahou a appelé les Européens à reconnaître la réalité de Jérusalem comme capitale israélienne, même si le consensus est fragile entre Européens sur la question des relations avec Israël. Ceci reste avant tout critique des destructions par Tsahal des infrastructures financées par l'UE en Palestine et critiquent aussi la politique de colonisation d'Israël dans les territoires palestiniens.
Pierre Benazé en direct de Bruxelles. Rapprochement entre l'Égypte et la Russie. Vladimir Poutine a rencontré au Caire Abdel Fattah al-Sissi. Ils ont évoqué ensemble le conflit israélo-israélien. Israélo-palestinien, pardon, et signé un contrat pour la construction de la première centrale nucléaire égyptienne. Le président russe a auparavant effectué une visite surprise en Syrie pour y ordonner le retrait d'une partie des troupes russes déployées dans le pays. En 2 ans d'intervention, estime Vladimir Poutine, elles ont accompli leur mission en détruisant le groupe État islamique. Le Haut Commissariat aux réfugiés lance, je cite, un appel désespéré à la solidarité et à l'humanité. Depuis la diffusion d'images de marchés aux esclaves en Libye, on ne peut plus douter des abus dont les migrants sont victimes dans le pays et la communauté internationale s'en est émue. Mais l'agence onusienne, qui s'efforce d'évacuer rapidement les réfugiés les plus vulnérables, cherche des pays d'accueil pour 1300 réfugiés, Marie-Pierre Véraud.
Les 1300 réfugiés extrêmement vulnérables que l'ONU souhaite extraire au plus vite de l'enfer libyen incluent des enfants non accompagnés, des mères célibataires, des personnes très sérieusement malades ou ayant subi de graves tortures. Le Niger devrait les accueillir dans un premier temps, mais le HCR espère que d'ici fin mars, des places d'accueil plus pérennes seront disponibles. Après la diffusion d'images par CNN dénonçant les ventes aux enchères de migrants, la communauté internationale s'était indignée. L'ONU a condamné des faits d'esclavage et des violations susceptibles de constituer des crimes contre l'humanité, torture, homicide, viol, enlèvement contre rançon, trafics humains, les atrocités déjà dénoncées par les organisations humanitaires se retrouvent désormais condamnées par les gouvernements. Plus personne ne peut ignorer que des milliers de migrants bloqués en Libye, voire renvoyés en Libye lorsqu'ils sont interceptés en Méditerranée à la demande de l'Europe, sont pris au piège. En fin de semaine dernière, l'Union africaine s'est engagée à rapatrier quelques 20 000 migrants de Libye, mais on ne sait combien ils sont au total. L'Union africaine estime que plusieurs centaines de milliers de migrants africains, entre 4 et 700 000, nul ne sait vraiment, croupiraient dans diverses prisons. L'Organisation internationale pour les migrations a déjà procédé à plusieurs milliers de rapatriements vers le Niger, la Guinée, la Gambie ou le Mali. La politique de retour ne peut toutefois être la seule réponse face à ce drame. Lors du sommet Union européenne-Afrique de fin novembre, Emmanuel Macron avait évoqué une initiative euro-africaine afin d'évacuer les populations en danger en Libye, notamment vers l'Europe. Pour le HCR, il est urgent de passer aux actes.
Marie-Pierre Véraud. Fort de leur victoire aux élections territoriales, plus de 56% des voix, les nationalistes corses attendent l'ouverture rapide de négociations avec Paris en vue d'une plus grande autonomie. Édouard Philippe a promis de recevoir Gilles Simeoni dès l'installation de la nouvelle collectivité. Sophie Delpont a joint l'historien Michel Verger-Franceschi. Il est professeur d'histoire moderne à l'Université de Tours et, précisons-le, adhérent de La République En Marche. La victoire des nationalistes, explique-t-il, est le fruit d'un long combat.
C'est un fait inédit. Fait historique, puisque la Corse se trouve réunifiée depuis la première fois, depuis l'Empire romain. Il y a toujours eu deux départements, 2B, 2A, la Haute-Corse, la Corse du Sud, le Gaule et le Liamone au XIXe siècle. Et donc c'est la première fois qu'on a une Corse qui retrouve son identité et la totalité de son territoire.
Au niveau politique, ce qui se passe en Corse, est-ce que c'est une petite révolution ou est-ce que c'est quelque chose qui émane, on va dire, d'un processus de long cours?
On assiste en Corse à l'élimination du Front National, moins de 3% à ces élections territoriales. Comme Emmanuel Macron, ils ont marginalisé la gauche au point qu'elle n'était pas présente au deuxième tour donc des élections territoriales. Ils ont marginalisé aussi la droite, les Républicains, qui n'a fait que 12% des voix. Et donc, ils arrivent avec une majorité absolue, comme Emmanuel Macron, à la tête de l'exécutif. Et donc, je ne vois pas ce qui pourrait opposer Jean-Guy Talamone et Gilles Simeone à Emmanuel Macron, qui lui-même se définit dans une tradition beaucoup plus girondine, c'est-à-dire une fédération, que dans une tradition jacobine révolutionnaire, c'est-à-dire la centralisation parisienne à outrance.
Les revendications, notamment de Gilles Simeone, sont très claires, sur même un calendrier. Est-ce que vous pensez que ça peut être accepté, acceptable pour le pouvoir central, pour Emmanuel Macron?
Je n'aime pas le terme que tout le monde emploie aujourd'hui de revendication ou d'émancipation de la Corse. Je préfère celui de dialogue. Celui d'émancipation est encore pire parce qu'on a un peu l'impression que les Corses étaient archaïques. Le premier président de la République française a été un Corse, Louis-Napoléon Bonaparte. Quand on dit que la Corse est hors la loi qu'on oublie souvent que le code civil qui nous régit depuis plus de 200 ans est dû à un Corse, Napoléon Bonaparte. Je constate, d'après ce qui est dit ces jours-ci, que l'exécutif, Édouard Philippe ou Emmanuel Macron, sont à l'écoute pour partager ce dialogue.
Michel Verger-Franceschi, auteur du livre « Une histoire de l'identité corse, des origines à nos jours » est paru chez Payot. Jean-Marie Le Pen peut-il rester président d'honneur du Front National? Le fondateur du parti sera fixé le 9 février. Nouvel épisode judiciaire de ce feuilleton, la cour d'appel de Versailles réexaminait aujourd'hui la plainte de Jean-Marie Le Pen contre son exclusion, Ludovic Piétenu.
Et l'avocat du FN ne mâche pas ses mots devant le tribunal. Jean-Marie Le Pen est un repris de justice. Il a tenu des propos outranciers, racistes, négationnistes. Comment peut-on dans ce cas-là faire appel à l'honneur? Car le fondateur du parti défend son titre de président d'honneur, mais aussi de membre du parti. En première instance, la justice avait confirmé son exclusion, tout en demandant au Front National de conserver Jean-Marie Le Pen comme président d'honneur. L'avocat du FN fulmine. Comment peut-on, en toute logique juridique et mathématique, ne plus être membre et conserver une autre fonction? Il désigne encore le vieil homme assis derrière lui qui ferme les yeux et semble ne pas l'écouter. Ici et dans d'autres prétoires, Jean-Marie Le Pen recherche une tribune sur le terrain judiciaire parce qu'il ne l'a plus sur le terrain politique. Faux, défend l'avocat de la partie adverse, ce n'est pas lui qui est à l'initiative et jamais le FN n'a respecté les décisions de justice. C'est d'ailleurs sur ce thème que Jean-Marie Le Pen plastronne en sortant de la cour d'appel.
Chaque fois que nous avons plaidé contre le Front National, nous avons gagné à chaque fois. Quand vous risquez d'être emporté par le vent, moi j'ai l'habitude des tempêtes.
Le Front National, c'est l'affaire de sa vie, explique son avocat. Et il restera ce menhir, ce gros caillou dans la chaussure de Marine Le Pen, quelle que soit la décision judiciaire du 9 février. Il sera présent d'une façon ou d'une autre au prochain congrès du Front National.
Et si on ne m'y invite pas, j'irai quand même.
Et ce sera à Lille les 10 et 11 mars.
Ludovic Piétenu. Récidiviste de la provocation, le maire de Béziers fait de nouveau parler de lui avec une campagne d'affichage en faveur de l'arrivée du TGV dans la région. Robert Ménard a validé des affiches dont l'humour noir n'a pas fait rire tout le monde. Sur l'une d'elles, un train approche alors qu'une jeune femme est attachée sur les voies. Sur l'image, l'inscription « Avec le TGV, elle aurait moins souffert ». L'ancienne ministre des droits des femmes socialistes, Laurence Rossignol, et les jeunes insoumis ont porté plainte. Des chorales dans tous les établissements scolaires en 2019, c'est ce que souhaite Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation nationale a fait cette annonce ce matin sur France Musique, aux côtés de la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Bonsoir, Cécile de Kervas-Doué.
Bonsoir.
20 millions d'euros vont être débloqués et dès 2018, un établissement sur deux doit pouvoir dispenser des heures de chant. Vous avez joint des directeurs de conservatoire pour voir comment ce nouveau plan choral peut être mis en place.
Oui, et ce qui revient chez les professionnels de l'enseignement musical sur le terrain, c'est que c'est plutôt positif de vouloir relancer les chorales scolaires, même si certains me glissent tout de même, bon, avec ce plan choral, on invente un peu la poudre. Parce que le chant choral, à l'école, ça n'a rien de nouveau. C'est qu'après 68, certains élus l'ont mis officiellement en sourdine, sous prétexte que ce n'était pas assez moderne. Mais sur le terrain, depuis 30 ans, directeur de conservatoire et surtout dumiste, c'est-à-dire ces musiciens diplômés à l'université pour pouvoir intervenir en milieu scolaire et faire chanter les enfants, tous ces gens-là se battent contre les idées reçues. Car non, faire chanter les enfants, ça n'est pas ringard et surtout, ça n'est pas facile à mettre en place, contrairement à ce que déclare la ministre de la Culture. C'est un vrai métier qui doit être rattaché au conservatoire. Comme l'explique Jean-Luc Bonnet, il dirige le conservatoire d'Aubagne, dans le département des Bouches-du-Rhône, et c'est l'un des acteurs du renouveau du chant choral à l'école depuis 30 ans.
Nous, on est plutôt partant sur des politiques de projet. On monte une comédie musicale avec un orchestre à l'école. Alors, mettre des projets comme ça en place, c'est jamais facile. Il faut un peu d'argent. Apparemment, il y a quelques moyens, c'est bien. Hein. Donc, ça peut être des créations de postes. Il faut s'appuyer, encore une fois, sur le tissu existant de professionnels, conservatoires, éducation nationale, enseignants, parce que les enseignants primaires et collèges, c'est fondamental de s'appuyer sur eux. Il y en a qui sont très volontaires, qui ne demandent que ça, à être formés, hein, à une pratique vocale simple, à faire ça correctement. Correctement, bah, c'est faire un bon échauffement vocal, connaître les voix, c'est ne pas forcer, ne pas faire ça trop longtemps, etc., etc. Donc je pense qu'il faut former beaucoup de gens. Donc il faut quand même un peu de temps pour faire tout ça.
Aujourd'hui, l'urgence, c'est donc la formation, car on le sait, les professeurs de musique sont rares dans les collèges, comme le sont également les intervenants musiciens en école primaire. Il faut plus de professionnels des voix d'enfants, disent les directeurs des conservatoires. Donc il faudra au moins 4 ans pour mettre en place ce plan choral. Et les directeurs de conservatoire rajoutent, c'est vrai que c'est du très long terme, mais ça vaut vraiment le coup, car chanter, et ce, dès la maternelle, favorise la créativité, la mémorisation, l'écoute, le comportement collectif, et surtout l'épanouissement de tous les enfants.
Cécile de Kervas-Doué. Les intempéries perturbent l'ouest de l'Europe et notamment l'Hexagone. Le Nord et le Pas-de-Calais sont en vigilance orange, neige, verglas et 6 départements du sud-est pour pluie, vagues, submersion et avalanches. Quelques 110 000 foyers ont été privés d'électricité une partie de la journée. Ils sont encore 93 000. L'aéroport de Nice-Côte d'Azur est fermé jusqu'à demain matin 6h et à Paris, la Tour Eiffel est fermée au public. Le temps sera plus calme demain avec un ciel variable. Il pleuvra en matinée près des frontières du Nord et dans l'Est. Les éclaircies domineront l'après-midi. Température minimale de moins 2 à plus 12 du nord au sud, maximale comprise entre 2 degrés dans le nord-est et 15 en Corse. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.